Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui pour la première fois vous propose chaque après-midi l'exigence d'une discipline aussi pointue que l'histoire dans une mise en scène spectaculaire digne des meilleures productions de Broadway.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, sans se la péter.
Un show éblouissant, porté, vous l'entendez, par le talent de Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Oui, goûtez-vous, mes amis. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est toujours aussi agréable de se retrouver pour deux heures.
Non,
rieuse, on entend la pie rieuse à côté. À la rencontre de trois personnages hauts en couleur.
Ah oui.
Leur point commun aujourd'hui, hauts en couleur, oui, mais ils ont connu des nuits blanches. On réunit en effet trois insomniaques. A commencer par le président américain Abraham Lincoln, dont les nuits, entre travail acharné et mélancolie, comme on disait poliment, étaient aussi agitées que la situation politique de son pays, les États-Unis, en pleine guerre de sécession. Lui passait aussi des nuits blanches, plus sombres encore. Je vous raconte l'écrivain Franz Kafka, qui a noirci ses cahiers et couché ses plus beaux textes sur le papier pendant que le monde dormait. Quant à vous, Mathieu, vous dérogez aujourd'hui à notre règle, à moi les morts, à vous les vivants, puisque, hélas, notre troisième insomniaque du jour est lui aussi décédé.
Oui, mais il y a quand même moins longtemps qu'Abraham Lincoln, puisque c'était il y a quelques mois à peine. Je reviendrai aujourd'hui sur le destin d'un artiste qui a puisé son génie dans ses insomnies, le chanteur Christophe. À l'orée de deux heures de grande déconnade aujourd'hui.
Oui, mais on compte sur eux. Ils sont avec nous comme chaque jour. Elles nous entraînent dans l'intimité des grands de ce monde. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Écoutez, ne comptez pas sur moi pour vous faire rire aujourd'hui, parce que figurez-vous qu'en plus de ceux qui ne dorment quasiment jamais, eh bien, il y a ceux aussi qui ne se nourrissent quasiment pas. Et oui, dans certaines traditions spirituelles, il existe des êtres à part, saints, catholiques, sages, hindous, capables de rester des semaines, des mois, voire des années sans boire ni manger. Et c'est de quelques-uns de ces êtres étranges que je vous parlerai tout à l'heure, non pas de David Castello-Lopez ici présent, mais de Catherine de Sienne jusqu'à la célèbre Marthe Robin.
Ça nous fait rêver.
Oui, ça fait envie, visiblement. David qui pense à fonder sa religion, d'ailleurs, le Castellopisme.
J'aimerais fondre, tout simplement.
Mais et puis, avec nous...
On va manger un peu, quand même.
Oh, oui, quand même. Mais des choses saines, bien évidemment. Sûr. Avec Olivier Pouls, on reste dans les produits de l'été.
Je ne suis pas très concerné par cette chronique.
C'est un concept
de ne pas manger pendant une demi-journée.
Vous pratiquez le jeûne.
Dites la vérité.
Oui, je pratique le jeûne deux fois par jour entre les repas.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un aliment qui a plein de vertus.
Ouais, l'abricot. C'est la fin de la saison. On termine l'été avec ce fruit. Je vous raconterai d'où il vient, puis je vous donnerai une recette, une vraie recette qui revigore.
Une tarte aux abricots.
Non, pas une tarte aux abricots. Ah bon, je vais mêler l'abricot avec le salé parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant.
Dans canard à l'abricot.
Non, autre chose, plus léger.
Bon. Enfin Stéphane, saluons la présence de ce garçon un peu bourru, un peu portugais, sans lien de cause à effet, qui porte un regard disons assez critique sur ceux qui disent souffrir d'insomnie.
C'est vraiment un truc de gonzesse.
Bonjour David Castello-Lopez, comment allez-vous?
Bourru moi, je suis vraiment l'anti-bourru.
Non, c'est vrai, vous êtes
je vais vous parler aujourd'hui des origines du mentalisme, c'est-à-dire des capacités un peu surnaturelles. Je vais parler de magie en fait, c'est un tour de magie mentaliste qui s'appelle la seconde vue. Et je vais faire un petit peu comme hier, c'est-à-dire que je vais décrire la chose et vous dire depuis quand elle existe.
Et entre deux chroniques, nous jouerons évidemment à Burn to be Alive, ce jeu de culture générale qui fut cruel à Stéphane en saison 1 et qui pourrait bien lui être fatal en saison 2. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier grand insomniaque. La nuit, beaucoup dorment, d'autres mentent et s'en lavent les mains. Lui, la nuit, il réfléchit, il écrit, il décide, il se retrouve seul face à ses démons et sa mélancolie aussi, tourmenté comme l'était son pays. Stéphane Bern nous raconte le président Abraham Lincoln, l'insomniaque qui a tenté d'apaiser les États-Unis.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1863 à Washington, dans la Maison Blanche. La nuit est tombée depuis bien longtemps sur la ville assoupie. Et rien, à part quelques grincements dans la résidence présidentielle en perpétuels travaux, ne vient troubler le silence. Rien, sauf la voix grave qui résonne depuis une pièce du deuxième étage. Cette voix est celle du président Abraham Lincoln, qui scande quelques vers de Shakespeare. Dans le bureau, John Hay, l'un de ses secrétaires personnels, écoute le président faire sonner les décasyllabes et peine à dissimuler ses paupières qui s'alourdissent. Abraham Lincoln met de longues minutes à réaliser que son assistant est littéralement en train de s'endormir avant de se décider enfin à le laisser regagner ses pénates. Le président Lincoln, lui, continue sa nuit en déambulant seul dans la Maison Blanche. D'autres fois, il enjoint son secrétaire ou d'autres collaborateurs à partir pour une balade nocturne à travers la ville après avoir passé une bonne partie de la soirée à travailler. C'est que les nuits d'Abraham Lincoln ne connaissent souvent pas d'autre fin que celle du jour. Tout d'abord parce qu'Abraham Lincoln est un homme fort occupé. Depuis avril 1861, la guerre civile que nous appelons en France la guerre de sécession fait rage. Dans le bureau du président, les meubles sont recouverts de cartes d'état-major afin de préparer les opérations de ce qui reste aujourd'hui la pire boucherie de l'histoire des États-Unis. Pendant 4 ans, les États de l'Union au nord et les États confédérés du sud se livrent à des combats sans pitié. Si les origines du conflit sont complexes et anciennes, son déclenchement, lui, est dû à Abraham Lincoln lui-même, ou plutôt à son élection au poste suprême. Fervent défenseur du protectionnisme et opposé à l'extension de l'esclavage dans les nouveaux territoires de l'Ouest, ses visions politiques ont mis en péril l'économie et la sécurité des États du Sud, qui ont alors voulu s'émanciper, entraînant les fratricides affrontements. Maintes nuits d'Abraham Lincoln sont donc consacrées à gérer le conflit pour atteindre son but, en finir avec la guerre ainsi qu'avec l'esclavage et rétablir l'harmonie fédérale des États-Unis d'Amérique. But qu'il atteindra et pour lequel il entrera dans l'histoire américaine. Lui, le président parti de rien, né en 1809 dans un Kentucky digne des romans de Dickens, errant de fermes en fermes aux lisières du Grand Ouest, peuplé d'Amérindiens, que les Blancs n'ont pas encore décimé. Parti de rien donc, travaillant au champ en même temps qu'une scolarité sporadique, Abraham Lincoln devient pourtant avocat, puis représentant politique, d'abord dans l'Illinois, puis à la Chambre fédérale. Humaniste opposé par principe à l'esclavage, ses prises de position publiques et ses discours brillants lui offrent une notoriété certaine avant qu'il ne soit élu président en novembre 1860. Mais derrière le parcours brillant, l'incarnation du rêve américain, se cache une personnalité torturée. Depuis tout jeune, Abraham Lincoln est en proie à ce que l'on nomme alors mélancolie. Les psychiatres d'aujourd'hui diraient dépression. William Herndon, associé et biographe de Lincoln, écrit carrément que sa mélancolie coulait de lui lorsqu'il marchait. Dès sa rude jeunesse, Abraham manifeste une âme sensible et introvertie et s'essaye déjà à quelques vers souvent ténébreux. Il peine plus tard à faire face aux drames qui l'assaillent, notamment le décès en 1835 d'Anne Rutledge, son premier amour qui le laisse hagard, veillant la dépouille de sa dulcinée pendant des nuits entières armée d'un fusil. Il se dit qu'il pense souvent à la mort. D'aucuns lui attribuent un poème paru dans un journal local de l'Illinois en 1838. Son titre, Le soliloque du suicidé, tout un programme. Le témoignage de la fille du propriétaire d'un hôtel dans lequel Lincoln séjourna atteste de cette propension à broyer du noir. Voici le mot qu'il lui laissa en guise d'autographe. Vous êtes jeune, je ne le suis pas. Vous êtes pleine d'espoir, moi non. Profitez de la vie avant que ne vienne le froid. Cueillez les roses avant qu'elles ne pourrissent. Mélancolique, disais-je.
Un peu, oui.
Et qui plus est de santé fragile. Paluse, variole, syphilis, diront même certains, de nombreux maux qu'Abraham Lincoln soigne par des pilules au mercure, en plus d'opium ou d'autres pharmacopées étranges. Ces substances ont, semble-t-il, alimenté un certain dérèglement entre accès de colère et insomnie. La nuit, Lincoln travaille, lit et écrit. Il occupe cet éveil forcé autant qu'il le nourrit. « Je ne peux pas dormir quand je suis à la recherche d'une idée » jusqu'à ce que je l'ai attrapé, écrit-il. Tout ne serait-il pas en réalité qu'une vaine quête ? S'occuper l'esprit car on ne dort pas, ne pas dormir car l'esprit est occupé. Superstitieux, nimbé dans la mort depuis la perte de sa mère lorsqu'il avait 9 ans, il occupe aussi certaines de ses nuits à des séances de spiritisme avec son épouse Mary, tout aussi mélancolique que lui, d'autant plus après le décès de leur fils Willie en 1862. Un seul de leurs 4 enfants atteindra d'ailleurs l'âge adulte. En 1861, alors aux affaires présidentielles, Lincoln cesse les cures de mercure et son état de santé se stabilise. Adieu les colères noires et sautes d'humeur, mais le sommeil, lui, se dérobe toujours. Et Lincoln, noctambule et seulé, hante les rues de Washington. Il n'arrive pas à vaincre cette mélancolie, mais obtient pourtant une autre victoire. En janvier 1863, il proclame l'émancipation des esclaves dans les États du Sud, bien qu'elle ne soit pas véritablement effective. L'année suivante, il est réélu pour un second mandat. Investi en mars 1865, la guerre prend fin un mois plus tard. Le 9 avril, le Nord a gagné, l'Union est préservée. Lincoln a atteint le but qu'il s'était fixé. Mais le destin ne le laissera pas en profiter. Le 14 avril 1865, Abraham Lincoln et son épouse assistent à une représentation de « Notre cousin d'Amérique » au Théâtre Ford de Washington. John Wilkes Booth, comédien, partisan sudiste, s'est dissimulé derrière la loge. Il bondit en pleine représentation et tire avec son revolver. Une balle atteint Lincoln dans la nuque. Le président s'effondre. Les autres invités ne parviennent pas à arrêter le tireur qui s'enfuit dans de rocambolesques conditions et sera abattu lors de son arrestation. Après une nuit d'agonie, Abraham Lincoln meurt à l'âge de 56 ans. Le secrétaire à la guerre, Edwin M. Stanton, déclare face à la dépouille « Maintenant, il appartient à l'éternité ». Et il avait raison, tant Lincoln reste pour les Américains l'un des plus emblématiques présidents de leur histoire. Abraham Lincoln n'assistera donc pas à la proclamation du 13e amendement 8 mois plus tard, mais il mourut en sachant que la guerre était terminée, l'Union préservée et l'esclavage abandonné. Comme s'il savait que sa mission était accomplie. Il avait déjà en réalité dépéri, certainement épuisé par ses nuits d'insomnie. Au moment de son assassinat, Lincoln n'était plus que l'ombre de lui-même, affaibli, amaigri, exsangue, tout comme l'était son pays outragé par la guerre, comme si sa vie était liée à celle de la nation. Ironie de l'histoire, le bureau où il entraînait ses collaborateurs dans ses insomnies, déclamant des vers à des mines fatiguées, est désormais connu comme la mal nommée chambre de Lincoln, d'où, dit la légende, il hante encore les nuits sans repos des invités insomniaques.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Abraham Lincoln, nous sommes avec l'historien Farid Hammer. Bonjour Farid.
Bonjour.
Bonjour Farid Hammer. Vous êtes historien spécialiste du 19e siècle américain et de la guerre de sécession. Vous avez notamment fait paraître la guerre de sécession aux éditions Que sais-je et co-écrit une BD intitulée Lincoln, parue chez Glénat. J'en parlais dans mon récit, Lincoln souffrait, disait-on poliment, de mélancolie. En fait, il était dépressif. Qu'est-ce qui était à l'origine, selon vous, de son mal-être ?
Alors écoutez, je suis historien, mais c'est vrai que sans vouloir prétendre faire de la psychanalyse, je crois que cela ne fait pas tellement de mystère. Hein. Pour comprendre le personnage, il faut s'intéresser avant tout à sa jeunesse. Hein. Lincoln a eu une enfance très malheureuse, hein, et ça je voudrais peser mes mots, d'abord dans le Kentucky, puis dans l'Indiana, l'Illinois pour finir. C'est une enfance marquée par une extrême pauvreté, mais aussi par l'omniprésence de la mort. Et cette mort, elle le guette déjà personnellement, puisque figurez-vous que à l'âge de 3 ans, c'est son plus lointain souvenir, il manque de se noyer. Quelques années plus tard, il reçoit un terrible coup de sabot dans le crâne qui le laisse inanimé pendant plusieurs heures. On le croit mort et finalement, il reprend connaissance. Mais surtout, la grande faucheuse frappe. Et cette grande faucheuse a la particularité de lui enlever les êtres qui lui sont le plus chers. Son petit frère, d'abord, qu'il n'a jamais connu, sa mère, vous l'avez dit, puis sa sœur Sarah, dont il était très proche, et encore la belle Anne Rutledge, hein, la seule femme, dit-on, qu'il ait jamais aimée. Alors, c'est vrai que ce cortège de malheurs, Lincoln, le jeune Lincoln le vit d'autant plus mal qu'il s'entend très très mal avec son père, qui était enfermé aux mœurs rudes, hein, qui le battait, l'élevait à la dure et qui l'a longtemps éloigné des bancs de l'école, hein, pour le faire travailler dans les champs. Hein. Et d'ailleurs, ce père ne comprendra jamais le désir d'élévation de son fils. Et puis, si vous permettez, il y a une dernière chose, hein. Chez Lincoln, outre cette obsession de la mort, il y a aussi une fascination morbide pour la folie. Pourquoi ? Apparemment, il y a eu un événement déclencheur. Quand il était enfant, il assistait horrifié à une crise de démence de l'un de ses petits voisins. Et pour lui, cette folie était très, très intéressante à étudier. C'était une sorte de vie intérieure, mystérieuse, affranchie de toute règle, qui nourrissait son besoin d'évasion. Et c'est pour ça qu'il avait il a développé une passion pour des écrits qui broyaient un petit peu du noir. Mmh. Ça, il le retrouvait chez Shakespeare, chez Lord Byron, chez Robert Burns notamment.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que les drames dont vous parlez dans sa jeunesse expliquent aussi le fait qu'il s'adonne régulièrement à des séances nocturnes de spiritisme ? C'était pour rester en contact avec tous ses proches qui avaient disparu ?
Alors, ces séances de spiritisme, c'est vrai qu'il en a fait un peu, sans doute moins que ce qu'on répète, mais s'il l'a fait, c'était essentiellement pour faire plaisir à madame. Alors, il faudrait en parler un petit peu de son épouse, qui s'appelait, vous l'avez dit, Marie. Alors lui, il l'appelait aussi Molly, ou sinon maman, ce qui en disait long aussi sur son besoin d'affection. Et ce petit bout de femme, hein, 1m57, hein, donc ça faisait quand même un couple qui était quand même curieux à voir, hein, lui, du haut de 100m95, ce petit bout de femme avait un caractère volcanique, hein, qui a mis plusieurs fois Lincoln en difficulté, d'abord parce que sa famille à elle a pris fait et cause pour le Sud, hein, ce qui faisait jaser évidemment à Washington, vous vous en doutez. Ensuite, parce qu'elle était à l'origine de dépenses fastueuses pour rénover la Maison Blanche, et ça aussi en temps de guerre civile, ça passait mal. Et surtout, parce qu'après la mort de leur petit Willy, en février 1862, vous l'avez dit Stéphane tout à l'heure, qui était l'enfant prodige, eh bien, elle va souffrir de telles crises d'angoisse qu'on va la croire, à un moment donné, même frappée d'aliénation mentale. Et c'est pour noyer son chagrin, de tenter de communiquer avec effectivement le défunt, qu'elle va consulter des médiums, des astrologues, et forcer un peu, hein, la main à son époux pour l'y accompagner. Donc c'est une manière aussi pour ce couple, hein, dans la plus terrible épreuve personnelle qu'il a traversée, d'exercer sa souffrance, hein, et de conjurer le mauvais sort, puisqu'effectivement c'était déjà leur deuxième enfant qui trépassait.
Alors, évidemment, Lincoln était insomniaque, mais quand on est président des États-Unis, est-ce qu'on peut réellement dormir sur ses deux oreilles, quelle que soit l'époque, quel que soit le président, au fond ?
Ah non, c'est pas facile, hein. Il y a plus forte raison, vous l'imaginez bien, en temps de guerre civile. Alors, Lincoln n'a jamais été très populaire de son vivant, hein. Il se savait en danger, il savait qu'il y avait des menaces qui pesaient sur sa vie. Et d'ailleurs, on raconte une anecdote suivante, il recevait tellement de lettres de menaces de mort qu'il s'en amusait, qu'il les consignait lui-même dans une boîte d'archives qu'il avait soigneusement intitulée « Projet d'avenir ».
Il manquait pas d'humour.
Voilà, l'humour noir. Hein. Oui. Toujours, hein. C'était un fataliste. Hein. Ce qui doit être sera. Ça, c'était vraiment sa devise. Et c'est vrai qu'il prenait pas très très au sérieux, hein, aux grandes dames de son entourage et de sa garde rapprochée, qui se réduisait vraiment à la portion congrue, hein, toutes ces menaces, puisqu'il avait quand même beaucoup d'ennemis. Hein. Les sudistes lui reprochaient évidemment de mener une guerre de dévastation sur leur sol. Les abolitionnistes trouvaient qu'il allait pas assez loin concernant l'esclavage. Il s'entendait très mal avec ses généraux avant de trouver la perle rare en la personne du général Grant. Hein. Ses généraux lui reprochaient son ingérence, alors que, je vous le rappelle, en vertu de la Constitution, le président des États-Unis quand même le commandant en chef des armées fédérales, une France de l'opinion nordiste qui préconisait la paix, donc sur la base de la séparation avec le Sud, et puis alors, pour les élites européennes, Lincoln c'était un parvenu, il n'avait aucune classe, aucune stature, et il n'aimait pas les belles choses, et on était loin vraiment des grands ténors du temps de l'indépendance, des George Washington, de Thomas Jefferson, etc. Alors son surnom c'était vraiment le gorille de la Maison Blanche. Alors, sa santé était fragile, effectivement, parce que quand on regarde les photos d'époque, c'est vrai que Lincoln, il a souvent une mine cadavérique. Hein. On le voit voûté, il a le visage émacié, vous l'avez dit, les yeux gonflés de cernes, le teint cireux, et il semble flotter dans ses habits noirs. Il s'habille systématiquement en noir, hein, Abraham Lincoln. Et pendant les deux dernières années de la guerre, il va perdre 18 à 20 kilos. Alors déjà qu'il n'était pas très très épais, ça s'est quand même beaucoup vu. Alors on a dit qu'il était anorexique à un moment donné, parce qu'il avait pris l'habitude à la fin de sa vie de se contenter d'un seul repas quotidien, hein, qui se composait de deux œufs. Voilà, le régime Lincoln, c'était deux œufs, une part de bacon et du café. Voilà. Bon, ça, on n'en est pas tellement certain, hein, qu'il était anorexique. En revanche, il est probable qu'il ait souffert d'une excroissance osseuse, hein, qui est connue aujourd'hui sous le nom de syndrome de Marfan, puisque pour son époque, il était grand, même très grand, c'était un géant, 1m94, 1m95, et encore, hein, je ne compte pas son chapeau haute forme, hein, son sempiternel chapeau haute forme, qui accentuait encore plus son allure dégingandée.
Et Stéphane, moi ce qui me fascine quand même dans le récit que vous avez donné, Stéphane, tout à l'heure, c'est que les événements tragiques qui ont jalonné le parcours de Lincoln l'ont pas empêché de gravir les échelons. Comment un jeune garçon parti de rien, si j'ai bien compris, a pu réussir à accéder au poste suprême? Enfin, ça, c'est une carrière invraisemblable.
C'est la force de caractère de Lincoln. Il a toujours été bienveillant pour les autres. On ne lui a pas forcément rendu, mais effectivement, dès qu'il a réussi à s'affranchir de l'autorité paternelle, il a enchaîné, il a vécu d'expédients, il a enchaîné boulot sur boulot, il a été tour à tour ouvrier agricole, travaillé dur, hein. Il a été batelier sur le Mississippi, il a été commis de magasin, postier, milicien à un moment donné, en 1832, au moment d'une guerre contre des Indiens, et c'est vraiment à la force du poignet qu'il a réussi à être admis au barreau de l'État de l'Illinois en 1836. C'est quelqu'un qui a toujours eu de l'ambition, qui était toujours très occupé, hein, et qui avait justement peur de ne pas satisfaire son ambition. Hein. Son secrétaire particulier John Hay disait son cerveau était comme un moteur, il ne connaissait pas le repos. Mmh.
Mais on comprend donc les insomnies de Lincoln. Il y a aussi la guerre de sécession qui a déchiré le pays sous sa mandature. Je comprends qu'on avait du mal à trouver le sommeil. Cette guerre, elle a en fait éclaté peu de temps après son élection. Donc vous disiez qu'il suscitait la haine, notamment des représentants des États du Sud. Il lui reprochait d'être abolitionniste, surtout.
Alors, il n'était pas vraiment abolitionniste. Hein, alors, à l'époque, Lincoln faisait partie du parti républicain qui est nouvellement créé. Alors, il ne faut pas confondre avec aujourd'hui, hein, où il y a eu un renversement. À l'époque, le parti républicain, c'était les progressistes de l'époque. Hein. Donc, les conservateurs, c'était les démocrates. Hein, sachant que dans l'histoire américaine, le basculement s'est fait au moment de la politique du New Deal, hein, de Roosevelt. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que les sudistes l'ont fait surtout un procès d'intention, mais vous savez, la haine le climat de défiance entre le Nord et le Sud vraiment est arrivé à son paroxysme au milieu du 19e siècle, et ça a été vraiment une catastrophe, la guerre de sécession entre les Bleus de l'Union contre les Gris du Sud. Rendez-vous compte, hein, 630 000 morts, ça correspond à peu près à 2,5% de la population américaine de l'époque, donc c'était quand même une expérience dramatique. Et aujourd'hui encore, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, sans vouloir extrapoler, on s'aperçoit quand même que le souvenir de la guerre de sécession, de la guerre civile et de ses conséquences est encore brûlant dans les mentalités collectives outre-Atlantique.
Mais alors, Farid Hammer, comment vous expliquez qu'on présente souvent Lincoln, peut-être un peu rapidement, comme un partisan de l'abolition de l'esclavage, s'il n'était pas abolitionniste, comme vous l'avez dit?
Alors, Lincoln n'aimait pas l'esclavage, ça c'est clair. Il réprouvait moralement ce que les sudistes appelaient pudiquement l'institution particulière, mais il n'a jamais eu, en étant président, il n'a jamais eu l'intention première d'abolir l'esclavage là où il existait déjà, parce que le climat était trop explosif. Et c'est pour ça qu'il a été choisi par le Parti républicain, parce que c'était un candidat relativement modéré. Lui, ce qu'il voulait, c'était uniquement s'opposer à l'extension de l'esclavage dans les nouveaux territoires de l'Ouest, qui étaient très convoité, hein, pour y faire triompher le principe du travail libre, et puis aussi pour des questions de représentation politique, et bien évidemment. Au début de la guerre, il a dit clairement qu'il refusait d'apparenter sa politique à une sainte croisade pour abolir l'esclavage. Hein, ça, il l'a dit et répété. Hein, il a dit, hein, si je pouvais sauver l'Union en ne sauvant aucun esclave, je le ferais. Hein. Donc, c'est quelqu'un aussi qui... Quand il franchit le palais civil de l'émancipation, il épouse quand même les préjugés de son temps. Émancipation, ça veut dire la liberté, ça ne veut pas dire l'égalité. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a eu une démarche au fur et à mesure de la guerre assez opportuniste. Il a avancé ses pions à pas compter. Et puis c'est vrai qu'au bout de 1 ou 2 ans, il a estimé que les sudistes, finalement, se sont exposés à une mesure radicale, celle de l'émancipation, parce qu'ils ont posé une main parricide sur la Constitution. C'est vrai que vous connaissez l'anecdote, le 1er janvier 1863, lorsqu'il signe la proclamation d'émancipation des esclaves, la guerre, évidemment, change de nature, puisque le succès du Nord rendrait inévitable l'abolition de l'esclavage. Eh bien, il y a eu des festivités, des mondanités, il avait serré tellement de mains qu'il avait la main qui tremblait. Et juste avant d'apposer sa signature, il s'est calmé. Il a dit non, je vais attendre que mes tremblements cessent. Je ne veux pas que pour la postérité, les gens disent j'ai hésité.
Aujourd'hui, on parle de Lincoln, c'est une figure populaire, mais vous l'avez rappelé très justement, il était très contesté à l'époque.
Ah oui, il était vraiment très très contesté. C'était un parvenu pour les gens. Mais c'est vrai que ça contraste évidemment avec son aura aujourd'hui. On sait que les Américains adorent faire des classements de leurs meilleurs présidents et Lincoln dispute toujours à George Washington, le père fondateur, la première place. Pourquoi ? Eh bien parce que Lincoln, aujourd'hui, dans les représentations, c'est la figure du rassembleur par excellence. J'imagine que vous avez déjà été à Washington. Pensez à son fantastique mémorial qui trône juste en face du Congrès. Les Américains d'aujourd'hui lui savent gré d'avoir sauvé l'Union à son heure suprême d'épreuve, puisque c'est un jeune pays encore au milieu du 19e siècle, et aussi d'avoir aboli l'esclavage. Et c'est vrai que c'est sa mort tragique au fait de sa gloire qui en a fait un martyr
et un héros, absolument. Merci beaucoup Farid Hammer d'avoir exploré avec nous les faces les plus sombres aussi du président Abraham Lincoln. Alors je rappelle vos livres, La guerre de sécession parue aux éditions Que sais-je, La BD Lincoln qui est disponible chez Glénat, et vous écrivez en ce moment même une biographie de Lincoln qui paraîtra prochainement chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires à dormir debout. C'est bien pour des insomniaques. Et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, aujourd'hui, vous nous présentez des êtres étranges qui peuvent rester des semaines, des mois, voire des années sans boire ni manger. Et sans mourir, sinon ce serait triché.
Non, sinon c'est trop facile.
Écoutez, messieurs, on dit bien de deux êtres qui s'aiment éperdument qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, ces individus prônent l'absence totale de nourriture ou de boisson. On appelle ça l'inédit. Inédit, I-N-E-D-I-E. Ça vient du mot inédia, en latin, qui signifie jeûne, qui désigne le jeûne. Alors, donc, ces individus se contentent d'amour, de lumière céleste, qu'on appelle aussi le prana. Et évidemment, aux yeux des croyants, leur survie est la marque indubitable d'une grâce divine. Alors, parce que vous imaginez bien que si vous et moi, nous avisions de tenter l'expérience, alors déjà, sans eau, on serait mort après une semaine, et puis, sans nourriture solide, il n'est pas possible de survivre au-delà de 40 à 60 jours. Alors, attention, il existe un mouvement qualifié de respirianisme qui préconise ce genre de pratique. Donc, dans le respirianisme, il faut se nourrir exclusivement d'air et de lumière. C'est un mouvement qui est apparu aux États-Unis dans les années 70, mouvement très dangereux, qui a fait de nombreux morts. Donc, exemple à ne surtout pas suivre. Mais au cours de l'histoire, l'inédit a été pratiqué. Elle a été pratiquée essentiellement par des saints. La géographie chrétienne, donc le récit de la vie des saints, ne manque pas d'exemple. Il y a, par exemple, l'ermite Nicolas de Flux, qui au 15e siècle fit, dit-on, un jeûne total de 19 ans. Sa réputation de sagesse et de piété était telle qu'on venait le voir dans l'Europe entière. Mathieu, vous connaissez forcément Nicolas de Flux.
Mais je ne connais que lui. Mais
non, sans blague, vous ne connaissez pas. Mais c'est le saint patron de la Suisse.
C'est vrai.
Enfin, écoutez, on le fête tous les 25 septembre. Et vous,
voilà
Stéphane.
Pourquoi ils n'ont pas donné le passeport.
Non, mais écoutez, Stéphane.
je suis comme vous, je suis choqué.
Saint patron des gardes suisses du Vatican, oui, Nicolas de Flux. Saint patron mondial de la paix. Non, mais dites donc, les garçons, faudrait voir abachoter un peu votre géographie chrétienne. C'est pas une raison. En tout cas, Nicolas de Flux, pendant près de 20 ans, il s'est nourri exclusivement d'hosties. Alors, on lui a envoyé quelqu'un pour vérifier, mais les observateurs, au bout d'un mois, ont dit, ça va bien, d'accord, il boulotte que des hosties,
mais
on
s'en va. Il en prenait combien par jour?
On prend pas la Seine 50 fois par jour, j'imagine une, sans doute une. J'ai pas vérifié cette info, j'irai voir. Ouais. Alors, plus connue encore, naturellement, la fameuse Catherine de Sienne, qui, elle avait commencé par ne plus consommer que du pain et des herbes crues. Ensuite, elle continue sa vie d'ascèse en ne prenant que de la nourriture qu'après avoir pleuré. Elle appelle ça le don des larmes. Il faut pleurer sur la mort du Christ, pleurer sur le sort de ses contemporains, et ensuite, on a le droit de boulotter.
Si on pleure tout le temps, alors...
Écoutez, ça s'appelle le don des larmes. Je ne sais pas, il faut vous y mettre peut-être, envisager la question.
Pleurer après.
En tout cas, après le don des larmes, elle aurait jeûné 8 années durant, ne s'autorisant qu'une hostie par semaine. C'est pas lourd, mais la plus proche de nous. Bien sûr, c'est Marthe Robin, dont l'inédit aurait duré 52 ans, entre 1928 et 1981. Alors, Marthe Robin, elle était née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, de parents agriculteurs. Et Marthe échappe nouveau-née à la typhoïde, mais reste une enfant chétive, constamment malade, elle a des maux de tête, de la fièvre, une tumeur cérébrale, elle sombre dans le coma, elle avait des troubles du sommeil, comme vos personnages du jour, des troubles de la vision. Elle n'avait pas une minute de répit. Et pour trouver un sens à toute cette souffrance, elle se dévoue à la Vierge Marie en 1925, rédige un acte d'abandon à la volonté de Dieu, et là, elle cesse complètement de s'alimenter et de boire, et l'hostie devient sa seule nourriture. Bientôt, elle perd l'usage de ses mains et de ses jambes, elle va passer sa vie entière dans sa chambre. Qu'en dit la médecine ? Alors, on dépêche deux médecins auprès d'elle, hein, l'évêque de Valence, il parle d'encéphalite léthargique, puis il conclut qu'elle est en proie à des manifestations d'ordre surnaturel. En 1933, elle dit avoir une vision du Christ lui demandant de créer des foyers de lumière, de charité et d'amour, et 80 de ces foyers de charité, seront créés dans le monde. Chaque jour, des visiteurs se pressent à son chevet, et elle les reçoit bienveillantes et joviales malgré ses souffrances. Et donc, de 1930 jusqu'à sa mort, à 78 ans, 80, elle reçoit en plus les stigmates du Christ, vous savez, c'est-à-dire les plaies de la crucifixion aux mains et aux pieds. Hein, expérience, vraiment, existence douloureuse. Et en ce moment même, du coup, sa béatification est à l'étude. En tout cas, hein, que l'on croit au ciel ou non, et à la réalité de cet inédit, c'est-à-dire cette absence totale d'alimentation de boissons, on ne peut s'empêcher d'espérer que Marthe Robin, comme Catherine de Sienne, comme toutes ces dames, comme Nicolas de Flux, soit mort en odeur de sainteté. Autre belle expression de la langue française, après tant de souffrances terrestres, la divine providence n'aura pas voulu que ces vies semées d'épines s'achèvent autrement que dans des effluves de roses et de jasmin.
Amen. Merci beaucoup, Clémentine.
Ouais, dites donc, vous saviez même pas que Nicolas de Flux était le saint patron des gardes suisses du Vatican.
Mais on ne peut pas tout savoir.
Je tombe de haut. Et vous, que c'était le saint patron de la Suisse? Oh non, mais franchement, écoutez.
Elle me pointe du doigt. Rageusement. Merci quand même, Clémentine.
Je ne le savais pas non plus, hein, je vous dis tout de suite.
Vous restez avec nous. Certains vivent d'amour et d'eau fraîche, d'autres vivent de haine et de rancœur. Ça s'appelle le quiz. À
le
tout
fiel.
De suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est statistiquement la séquence de l'émission où les phrases les plus étranges, les plus équivoques sont prononcées. En effet, que voulait dire Clémentine l'autre jour par ces mots?
Ah oui, là vous pouvez me le mettre, parce que vraiment je l'ai mérité.
Sortie de ton contexte, la phrase est troublante. Sommes-nous dans une soirée libertine échangiste? Non, nous sommes dans mieux. Le quiz. Jouons à Burn to be Alive.
Vous n'avez pas honte.
Stéphane, êtes-vous prêt pour la première question? Je ne sais pas pourquoi on commence toujours par vous.
Je ne sais pas, changer cette saison.
Cette saison pourrait changer, oui. Dès lundi. Nous commençons par Clémentine. Stéphane, il a été roi d'Italie de 1878 à 1900. Je suis assez ému de commencer ce quiz.
Albert Ier.
J'ai envie de vous donner un demi-point. J'ai envie de vous donner un demi-point avant même la question. Parce que c'est beau quand ça fuse comme ça.
Il a été assassiné.
Alors, un demi-point déjà, mais je pose la question. Umberto, pour les intimes, il est né en 1844 avec un frère siamois. Ils ont été séparés à la naissance, mais il n'a pas survécu. Il est décédé une semaine plus tard, le frère, bien sûr. Vrai ou faux?
Alors, j'ai jamais, jamais entendu cette histoire-là. Alors, où la maison de Savoie s'est jamais vantée?
Il y a peut-être eu un jumeau, Stéphane. De toute façon, on était bien incapable de séparer des frères siamois à l'époque, ça c'est certain.
Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un frère siamois.
Vous répondez?
J'ai dit non, parce que...
On n'aurait pas appelé ça un frère siamois.
On l'aurait appelé autrement, d'abord parce que le siam...
Parce que les frères siamois qui ont donné leur nom aux frères siamois n'étaient pas encore de ce monde.
Bien sûr, vous allez loin quand même dans la réflexion. La réponse est...
Non.
Vous avez gagné, c'est faux. En revanche... Il avait un sosie. Un jour, Humbert Ier rentre dans un restaurant. Il tombe nez à nez avec le patron, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ils se prénomment tous les deux Umberto. Ils se sont mariés tous les deux le même jour avec une femme qui s'appelle dans les deux cas Margherita. Le restaurateur a ouvert son établissement le jour du couronnement du roi. Il va mourir d'un accident de chasse, alors que le roi Humbert Ier va également périr sous les balles, mais lors d'un attentat d'un anarchiste. Question numéro 2. Clémentine, elle est pour... Il a été roi de Hongrie de 1516 à 1526. Je suis assez ému de continuer ce quiz avec Louis II de Hongrie. Bon, pas de points supplémentaires pour Stéphane, qui est déjà à 1,5 point de toute façon. Né à Buda, qui a donné plus tard avec Obuda et Pest la ville de Budapest, Louis était prématuré. À l'époque, il n'y avait pas de couveuse, vous en conviendrez. Il a passé donc ses premiers mois au bain-marie, avec un système de braise qui était constamment allumé, dont la température était continuellement surveillée. Vrai ou faux ?
Au bain-marie. Vous ne comprenez pas avec le, je sais pas quoi, le bœuf stroganoff ou la schnitzel au paprika de
qu'on mange en Hongrie. Avant qu'on invente la couveuse, est-ce qu'on mettait les enfants au bain-marie ?
Alors, de toute façon, c'est un système de braise qui aurait chauffé de l'eau, qui aurait dégagé une vapeur chaude dans laquelle on
ça
aurait...
Ça s'appelle le bain-marie. Quoi.
C'est ma question.
Donc, est-ce qu'on mettait les enfants au bain-marie ? Moi, je ça me paraît curieux. Je pense qu'on aurait trouvé une autre méthode pour lui tenir chaud. On l'aurait mis sous des fourrures. On aurait... c'est trop dangereux, votre histoire. Je réponds non.
C'est dangereux, mais le Hongrois est-il audacieux ?
Vous avez gagné !
Non, pas au point de mettre un enfant au bain-marie. Bien joué, mais que s'est-il passé ? Il était prématuré, il fallait le réchauffer. Alors, on tuait régulièrement des animaux et on mettait des carcasses tout autour de lui. Une couveuse, super sympa. Question numéro 3 pour vous,
les
Stéphane.
Carcasses, ça tient chaud. Le sang chaud d'un animal.
On devait le répondre dessus. Ah, on s'ennuyait pas. Partons pour Vienne, Stéphane.
Ah.
1927, Édouard Haas III est un industriel très tôt concerné par la lutte contre le tabagisme. Il va tenter de commercialiser un patch anti-tabac. C'est un flop. L'idée est oubliée, le patch ne rencontrera le succès qu'au début des années 90. Vrai ou faux ?
Vrai.
Édouard Haas III.
Oui, très, très connu.
En quelle année ?
En 1927.
Écoutez, ça a l'air sympathique.
Oui, c'est tout.
L'idée, même pas. J'y connais rien, hein, vraiment. Mais je dirais oui.
Vous avez perdu.
1,5-1. C'est faux. Édouard Haas III a existé. Il est effectivement industriel de Vienne. Effectivement, il veut, dès 1927, lutter contre le tabac. Du coup, il crée des bonbons mentholés pour remplacer la cigarette. L'emballage ressemble à un briquet. Les bonbons pèsent son nez.
Ah, oh, magnifique histoire.
Clémentine, voici la quatrième question. Vous pouvez coiffer Stéphane sur le fil. Au début du XVIIIe siècle, Isaac Newton, dont on parle souvent dans cette émission, parmi ses nombreuses contributions scientifiques, avait inventé une sorte de bilboquet. Ce n'était pas une boule percée qu'il fallait embrocher, mais une sorte de cylindre. Il l'avait baptisé le stomachion. Vrai ou faux ?
Le stomachion ? Un bilboquet appelé le stomachion ? Oh non ! Non, ça me plaît pas, cette votre histoire.
Ça vous plaît pas, non. Cette histoire ?
Vous avez... gagné !
Et c'est une bonne réponse. Une bonne réponse qui vaut... un demi-point. Exceptionnellement, pour que le compte soit bon. Le compte est bon, on y est. C'est faux.
Monsieur le compte est bon.
Qu'est-ce que le stomachion et pourquoi vous ? Est-ce que je vous pose la question ? C'est que le stomachion est un puzzle créé par Archimède. Il est composé de 14 pièces qui peuvent former un carré de 17 152 façons différentes. Quant aux origines du bilboquet, ça sera l'objet d'une autre question dans un autre quiz. Question numéro 5, la question qui va vous départager, car aujourd'hui c'est extrêmement serré.
Ouais.
En 1966, à Orange, dans le Vaucluse, une bien étrange affaire se produisit. Le capitaine Moineau assure une mission de surveillance dans un abri d'alerte atomique. Soudain, c'est la torpeur. Non seulement la sirène d'alerte maximale retentit, mais le signal DG est également allumé. DG, c'est décollage de guerre. C'est en ordre de décollage immédiat. Le capitaine doit s'envoler dans son Mirage 4. L'appareil est armé d'une bombe nucléaire. L'avion vola ainsi au-dessus des Alpes, puis reçut l'ordre de retourner à la base. Après enquête, pourquoi l'ordre de décoller a-t-il été donné ? 3 propositions. C'est un jeu de vitesse, je vous le rappelle, vous écoutez les 3 propositions. Un court-circuit a eu lieu, une blague du 1er avril a été prise un peu trop au sérieux, ou un officier de permanence a fait une sieste sur un mauvais bouton.
2.
Un court-circuit dû à un orage. Victoire ! Victoire.
Bravo,
de Clémentine Portier-Caltada. Quand un général a rapporté l'incident au général de Gaulle, ce dernier a déclaré « Ah, vous voyez qu'ils sont prêts à le faire », en parlant d'utiliser l'arme nucléaire. Voilà une anecdote.
Incroyable.
Assez étonnant, je trouve.
L'avion s'est envolé.
Il s'est envolé. Le mec était parti avec la bombe. Il était prêt à la larguer. Ben heureusement, il a reçu.
On est bien peu de choses.
Imaginez qu'on ait coupé les communications. Bref, belle victoire de Clémentine.
Une belle victoire.
Je le mettais, Stéphane.
Mais elle est très forte. Hein,
oui, oh, bah, surtout sur les carcasses d'animaux.
Bravo, Clémentine.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Mathieu Noël est à mes côtés et il a l'air plutôt content.
Moi, je le suis, Stéphane, je le suis, d'autant qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'identifier à nos personnages du jour puisqu'ils étaient insomniaques alors que je dors comme un bébé.
Après Abraham Lincoln, je vous propose de découvrir le destin assez tortueux d'un génie de la littérature qui avait tendance à voir des gros insectes partout, Franz Kafka. Vous avez lu La Métamorphose, Mathieu ?
J'ai tout lu, Stéphane.
Oh, vous m'impressionnez par votre culture littéraire, mais aussi musicale, car notre troisième insomniaque du jour est un chanteur.
Il chantait Aline, il chantait les mots bleus, il chantait surtout...
Bandit, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés.
Ce satané Covid nous l'a enlevé il y a quelques mois. Je vous brosserai le portrait à 99% vrai d'un artiste, Christophe, qui vivait à 99% la nuit, un peu comme nos chroniqueurs. Qui sont certes là physiquement en studio avec nous, seulement si leur corps est là, leur esprit, lui, est encore largement à Saint-Tropez en boîte de nuit, à s'asperger de Dom Pérignon.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Olivier Poulx est avec nous.
Chaque jour, Olivier remonte pour nous aux origines d'une recette ou d'un produit.
Oui, pas du Dom Pérignon aujourd'hui, malheureusement.
Non.
Ce sera.
Nous fait un jour l'histoire du Dom Pérignon.
Bien sûr. L'abricot. Alors, l'abricot, c'est plus simple. C'est
oui,
aussi
c'est moins
plus
festif,
accessible.
Mais c'est plus accessible.
Ah, mais voilà, tout le monde peut en manger de l'abricot. Exactement.
Et puis, David Cassel-Lopez qui nous raconte les origines de quelque chose qui nous intéresse toujours aujourd'hui.
Tout à fait, le mentalisme. Le mentalisme, en particulier, une sous-catégorie du mentalisme que je développerai pour
vous. Et vous nous direz si c'est une arnaque ou si c'est vrai ?
Je vous dirai.
Vous trancherez ou
je trancherai.
Vous aurez une fin ouverte, genre certains y croient, d'autres non. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous prendrez parti ?
Non,
un peu
je vais raconter l'histoire d'un tour de magie. Donc un tour de magie, c'est toujours quelque chose dont on sait qu'il y a un truc et on ne sait pas forcément quel est ce truc.
Mais c'est fascinant. Et puis bien sûr, en fin d'émission, votre nouveau rendez-vous sanglant, la joyeuse foire d'empoigne intellectuelle qui opposera Poulx, Chelopch et votre serviteur sous la houlette machiavélique de Stéphane, qui nous posera des questions et nous, ma foi, on tentera de répondre. Ça sera la lutte finale. Mais tout de suite, il a passé des nuits blanches à noircir ses cahiers de mots, de phrases qui auraient dû n'appartenir qu'à lui. Elles ont, pour le plus grand bonheur des lecteurs, été publiées depuis. Stéphane Bern nous raconte l'écrivain Franz Kafka, dont les nuits étaient à l'image de sa vie. Sombre.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
2 octobre 1911. Nuit d'insomnie. Déjà la troisième d'affilée. Je me sens rejeté par le sommeil. Vers le matin, je gémis contre le matelas parce qu'il n'y a plus d'espoir pour cette nuit. Ces mots sont extraits du journal de l'écrivain Franz Kafka. Et ils ne sont pas les seuls à évoquer les nuits d'insomnie et de perdition dans l'obscurité. À croire que Kafka semblait condamné à ne jamais pouvoir se reposer. De ce journal se dégage un grand sentiment d'angoisse et de désespoir. Joint à une œuvre déclinant les thèmes de l'absurdité opaque du monde, des rapports de force et d'un permanent sentiment de culpabilité, il a participé à créer l'image de l'écrivain, celle d'un homme malheureux, affligé de ne pouvoir vivre pleinement sa vie. Franz Kafka est, selon l'expression consacrée, un écrivain tchèque de langue allemande. Comprendre son monde aide à comprendre sa personnalité quelque peu torturée. Il naît dans le quartier juif de Prague en 1883, dans un empire austro-hongrois où l'antisémitisme ne cesse de s'affirmer. Juif donc, mais dans une famille très assimilée et peu portée sur la chose religieuse. Il fait partie des 10% de germanophones dans une ville certes cosmopolite, mais où l'on parle principalement le tchèque. Très tôt, Franz manifeste une attirance pour la littérature ou grande âme de son père commerçant. C'est d'ailleurs certainement pour ne pas s'opposer à ce père écrasant qu'il s'oriente vers des études de droit, alors que, comme il le dit lui-même, « tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie ». Kafka est en vérité toujours un peu à côté. Juif parmi les Tchèques, Tchèque en Autriche, artiste sensible au milieu de gens d'affaires, il est à la marge, se voit lui-même comme un parasite et doit sans cesse tenter de concilier sa personne avec le monde qui l'entoure. Un ami de jeunesse décrit d'ailleurs un homme s'évertuant à cacher sa singularité à ses contemporains, tâchant de paraître le plus ordinaire possible. Les journées de Kafka sont en effet loin de ressembler à celles d'un écrivain maudit. Docteur en droit en 1906, il travaille comme juriste dans une compagnie d'assurance. C'est certainement là qu'il est confronté à l'univers bureaucratique qu'il décrira dans ses aspects les plus oppressants de ses grands romans, Le Procès ou Le Château. Il déjeune avec sa famille, puis profite de la fin d'après-midi pour fréquenter quelques amis, aller au café ou au théâtre dans la soirée.
une parfaite existence bourgeoise. Que lui reste-t-il donc pour vivre son besoin de création et de littérature ? La nuit. Comme il l'écrit à son grand ami Max Brod, « Dans la nuit, la réponse éclate toujours à mes yeux, avec une éblouissante netteté. » C'est donc dans l'obscurité que Kafka se retire pour voir clair. S'il n'y avait pas ces affreuses nuits d'insomnie, je n'écrirais pas sur Till. Et certaines nuits sont fécondes, comme l'une de septembre 1912, lorsqu'il écrit d'une traite entre 22h et 6h du matin la nouvelle du verdict. L'histoire d'un conflit entre un père et un fils, un thème ancré en lui, tant il luttera toute sa vie pour s'entendre avec un père tyrannique. Ces insomnies sont autant le moment où l'imagination de Kafka se déploie que celui où ses angoisses se créent. Quand il ne veille pas, il ne dort pas non plus, il rêve, ou plutôt, il cauchemarde. Il a retranscrit pas moins de 30 songes terrifiants qui sont autant de responsables de ses tourments. « Je ne peux pas dormir », écrit-il à sa fiancée. « Je n'ai que des rêves, pas de sommeil. » Rêver l'angoisse, dormir l'inquiète. Il s'interroge. « Peut-être ai-je peur que mon âme, après m'avoir quitté pendant mon sommeil, ne revienne jamais. » Dans ce cas, écrire semble être le seul exutoire. C'est probablement au cours de ces interminables nuits que Kafka écrit ses nombreuses nouvelles et ses grands romans, tous inachevés et publiés seulement après sa mort, comme l'immense majorité de son œuvre. Malgré son souhait de voir tout son travail détruit, son ami et éditeur Max Brod, certain du génie de Kafka, préféra trahir cette dernière volonté. Et c'est heureux pour la postérité. Franz Kafka est un écrivain d'une modernité déconcertante, loin du lyrisme, son style est aiguisé. Il décrit des univers invraisemblables avec un étrange réalisme. Il décortique les rapports de pouvoir souvent arbitraires et injustifiés. Il examine avec une implicite dimension sociologique les liens de domination et affiche comme une solidarité naturelle avec les dominés qui subissent autant qu'ils participent à leur domination. Durant ces nuits d'éveil forcé, Kafka noircit les pages de ses carnets de réflexions et autres bribes. Il écrit aussi des lettres, beaucoup, notamment aux femmes avec qui il développe des relations parfois passionnées, mais platoniques et presque exclusivement épistolaires. Peut-être ses amours par correspondance ont-elles appuyé un sentiment d'échec permanent, lui qui par trois fois verra ses fiançailles rompues. « Il ne m'est possible d'aimer, écrit-il à Max Brod, que si je peux placer mon objet tellement au-dessus de moi qu'il me devient inaccessible. » Comme s'il était conscient de nourrir sa propre inaptitude à la vie. À en oublier que Kafka n'était pas qu'un chétif écrivain rongeant son désespoir. Il riait, nageait, canotait sur les rivières et ne rechignait pas à quelques bons moments avec les amis ou des visites au bordel pour des nuits de plaisir, nuits de plaisir un peu, d'angoisse beaucoup et surtout de créativité. Dans un très court texte écrit en 1920 réside peut-être l'explication. Kafka y décrit un monde où l'humanité endormie rêve du confort et du bonheur, alors qu'elle gît en fait dans le froid et le désert. Seul un être, le veilleur, est conscient de la triste réalité. Les hommes sont empêtrés dans leurs illusions et le veilleur est le seul à pouvoir en sortir. « Et toi tu veilles, » dit le texte. « Pourquoi veilles-tu ? » « Il faut que quelqu'un veille, » dit-on. « Il faut que quelqu'un soit là. » Être là pour prendre conscience de la réalité, tel est peut-être le rôle que Kafka s'assigne, celui de l'écrivain, du poète qui, selon ses mots, tente de greffer aux hommes d'autres yeux et de transformer la réalité. Les longues nuits d'insomnie auront très certainement nourri son imaginaire et sa clairvoyance, mais n'auront pas aidé Kafka à aller mieux. Crachant du sang dès 1917, la tuberculose se diffuse dans son corps au point qu'il meurt en 1924, à 40 ans, alors qu'il vivait enfin le bonheur conjugal et prenait du repos dans un sanatorium près de Vienne. Et si Kafka ne veille plus sur l'humanité assoupie dans ses illusions, son œuvre énigmatique a, elle, pris le relais pour éveiller les consciences.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Franz Kafka, nous sommes avec Florence Banco qui lui a consacré un ouvrage. Bonjour Florence.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour Florence Banco, vous êtes professeure de littérature et d'histoire des idées à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'œuvre de Franz Kafka. Vous avez notamment écrit Le journal de Kafka ou l'écriture en procès aux éditions du CNRS et Kafka ou l'art de l'esquisse aux éditions Belin. Je l'expliquais dans le récit, Franz Kafka évoque ses nuits d'insomnie dans son journal. Le sommeil empêché, c'est un thème que l'on retrouve beaucoup dans ses écrits.
Oui, oui, évidemment, bien sûr, dans ses écrits autobiographiques en particulier, donc dans le journal que vous avez cité, hein, les journaux de Kafka qui commencent à peu près en 1909 et qui vont se terminer pratiquement à sa mort. Et donc c'est un leitmotiv, c'est un thème, l'insomnie, le manque de sommeil qu'on retrouve pratiquement tous les ans dans les journaux, notamment dans les années où il vit des expériences assez extraordinaires, la rencontre avec le théâtre yiddish, la rencontre avec les femmes qui vont marquer sa vie. Et puis on retrouve aussi ce thème dans la correspondance avec les femmes qui ont marqué sa vie, notamment Félix Bauer et Milena. Et puis dans ses récits, c'est aussi un thème qui est très très important aussi et qui marque notamment le début de récits comme la métamorphose, hein, dont le personnage principal se réveille métamorphosé en un monstrueux insecte après une nuit de cauchemar. Pardon. Et puis le verdict qui est issu de ces états hallucinatoires où est plongé Kafka. Enfin, on retrouve voilà ce thème du rêve dans de nombreux récits, ou ce thème du sommeil empêché également, qui est vraiment un thème très très récurrent.
Et plus globalement, Florence Banco, quels sont les thèmes de prédilection de Kafka ? On parlait, Stéphane disait dans son récit, la figure paternelle, ça c'est quelque chose qui l'a profondément marqué.
Oui, le combat avec le père, la confrontation avec les figures paternelles, que ce soit le père en particulier, que ce soit des figures du pouvoir, comme un comte, comme le maître du seigneur du château, dans le château par exemple, ça c'est un thème très récurrent, le thème de la fuite, de l'errance dans des labyrinthes, dans des villes labyrinthiques où le sujet n'arrive pas à se trouver, il se perd en permanence. Le thème la rencontre impossible avec les femmes, ou en tout cas la rencontre difficile, l'union, le bonheur conjugal très difficile à trouver. Par exemple, le thème du corps, le corps vécu comme un fardeau, comme une cuirasse, comme une sorte de prison. Ça, ce sont des thèmes qu'on trouve dans l'ensemble des récits et qui sont aussi des thèmes récurrents dans les rêves.
C'est le moment pour moi de confesser mon inculture crasse, parce que j'ai lu Kafka, mais je ne savais pas que certaines œuvres n'avaient pas été publiées de son vivant. J'ai même pas d'idée de la chronologie, en fait. Par exemple, le château, le procès, ça c'est de son vivant, c'est posthume. C'est quoi la différence majeure entre les œuvres qui ont été publiées de son vivant et celles publiées de manière posthume ?
Alors, la différence, en fait, c'est que Kafka a publié très très peu de textes de son vivant, en fait, 7 textes uniquement, ce qui sont de courts récits, par exemple, description d'un combat, le verdict, la métamorphose, la colonie pénitentiaire, le médecin de campagne, le chasseur Gracchus. Bon, ce sont de courts récits, mais l'essentiel de ses livres, et notamment les 3 romans, ont été publiés de manière posthume, parce que Kafka avait rédigé des testaments où il disait je veux que rien ne soit publié après ma mort, puis finalement si, mais simplement très très peu de livres, à savoir la métamorphose, le verdict, et puis 2 ou 3 courts récits, mais il était toujours insatisfait de ce qu'il écrivait. C'est ce qui fait aussi ce tourment profond de Kafka, c'est-à-dire être condamné à écrire, que c'est sa véritable vocation, mais en même temps qu'écrire est toujours insatisfaisant parce que ça ne correspond pas à son exigence de perfection.
Mais écrire la nuit, c'était devenu quelque chose d'indispensable pour Kafka ? Est-ce que c'était simplement un confort pour lui d'écrire la nuit, ou c'est parce que c'était une sorte d'obsession ?
Les deux, je dirais. Un confort d'abord parce que Kafka a pratiquement toujours vécu chez ses parents, à Prague, où évidemment il y avait énormément de bruit la journée. Donc il avait besoin de ce silence de la nuit pour écrire, et il écrivait de 22h à 6h du matin. Et puis c'était aussi la nuit était la condition d'écriture, puisque c'est dans cet état un peu entre rêve et sommeil, dans cet état parfois très proche de l'hallucination, qu'il arrivait finalement à chasser les images qui le hantaient, comme selon ses propres termes, et à saisir ces images pour en faire des récits. Donc l'obscurité, la nuit, le calme lui sont nécessaires. Et il se définit lui-même, d'ailleurs c'est assez drôle parce que Kafka en tchèque ça veut dire la corneille, et il se définissait aussi comme un oiseau de nuit proche du hibou. Donc c'est vrai que le son qu'on entendait pendant le récit était vraiment très très adapté, parce que c'est ça, hein, Kafka est un veilleur et il a besoin de cet état pour écrire.
Quand on lit Kafka encore aujourd'hui, il est très différent de tous les autres auteurs. À l'époque, il était complètement à la marge, j'imagine.
il était peu reconnu, peu connu du grand public à l'époque, mais il était très entouré d'artistes d'avant-garde pragois, du Cercle de Prague. Il va au théâtre, il fait du sport, il est quand même entouré. Il n'est pas, c'est pas le génie maudit, c'est pas ça. Il est dans la vie et il tient à être inscrit dans la vie parce qu'il considère que, et c'est aussi la raison pour laquelle il continue à travailler, c'est qu'il tient à rester, comme il le dit lui-même dans son journal, dans le monde visible. Donc le travail de bureau, ce travail qui n'est pas très intéressant pour lui, mais qui lui permet quand même de s'intéresser aux victimes, entre guillemets, de la société, du monde du travail, puisqu'il travaille sur les accidents du travail. Ce travail lui permet de rester dans le monde visible, et le monde invisible, il le creuse pendant la nuit, mais il n'est pas à la marge. Non, il fait partie vraiment de cette avant-garde pragoise. Il va voyager aussi, il va rencontrer énormément d'auteurs, notamment à Paris. Il voyage vraiment toute sa vie aussi.
Mais il porte un regard très sombre sur le monde et sur les hommes. Tout lui semblait tellement absurde. D'ailleurs, aujourd'hui. On dit kafkaïen, c'est-à-dire un monde absurde.
Oui, on dit un monde absurde. Il arrivait finalement à la fois à voir la beauté du monde, parce que, et notamment de la nature. C'est vraiment un thème aussi assez récurrent qu'on a tendance à un peu négliger dans ses récits et dans son œuvre. Il est très sensible à la beauté des choses, mais en même temps, effectivement, aux contradictions qui habitent notre monde et à l'opacité, finalement, des choses, à un sens qui est difficilement devenu déchiffrable dans un monde qui a perdu souvent la foi, le monde des villes, le monde du vacarme, du chaos, où il est difficile parfois de se frayer un chemin et de trouver une voie. Donc quand on parle de kafkaïen, le kafkaïen qui est devenu vraiment tellement célèbre, qui ponctue maintenant aussi notre langage, c'est un monde où on ne se reconnaît pas, ou des situations qu'on ne maîtrise pas. On se retrouve arrêté, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on se retrouve arrêté un jour parce qu'on vous soupçonne d'un crime que vous n'avez pas commis, ou on ne comprend pas le fondement des choses, la manière dont les choses arrivent. Donc effectivement, il a aussi une force visionnaire du monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas toujours très clair pour nous, à vrai dire.
Non, mais c'est la raison pour laquelle on utilise de plus en plus ce mot. Et d'ailleurs, on devrait relire maintenant l'œuvre de Kafka. En tout cas, merci Florence Banco de nous avoir éclairé sur le complexe Franz Kafka. C'est un personnage vraiment passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, Kafka ou l'art de l'esquisse, et c'est aux éditions Belin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages célèbres qui souffraient d'insomnie. Après Abraham Lincoln et Franz Kafka, vous nous brossez à présent, Mathieu, le portrait, comme toujours à 99% vrai, d'un chanteur français formidable, malheureusement emporté l'année dernière par la Covid, c'est le chanteur Christophe.
Coronavirus, connard de virus, chantait un autre poète contemporain, Renaud. Il avait raison. C'est en effet la pandémie qui a eu raison de Christophe. Cet électron libre de la chanson française, que je sais, Stéphane, vous aimiez beaucoup, à chaque fois que vous écoutiez.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
C'est comme si ça vous soignait de tous ces artistes pseudo-branchés qu'on vous force à annoncer à l'antenne d'Europe 1, alors que vous n'avez pour cette jeune génération qu'un souverain mépris. Mépris que vous affichez d'ailleurs souvent à demi-mot, voire à mot complet.
Il y a des artistes dont on n'a jamais, mais jamais entendu parler. Et qu'on n'entendra jamais plus.
Il n'y a pas à dire ma couille, Christophe, c'était autre chose, me dites-vous souvent, quand on écoute le dernier Kenji Girac. Et je ne peux que vous donner raison, Stéphane, même si je ne l'aurais pas formulé avec une telle familiarité. À noter, pour être précis, que ce n'est pas la Covid tout seul qui a eu raison de Christophe. Le connard de virus a trouvé un terrain favorable, un emphysème diffus dont souffrait le chanteur noctambule depuis des années. La carrière de Christophe, qui vous allez voir ne s'appelle pas du tout Christophe, démarre en 1961 avec un groupe amateur au nom énigmatique Danny Baby et les Hooligans. Danny était un clin d'œil au véritable nom de notre personnage du jour, Daniel Bevilacqua. Oui, Christophe descend d'immigrés italiens originaires du Frioul. Sa maman est couturière à Juvisy, son père installateur de chauffage central. Lui voit le jour le 13 octobre 45, un authentique boomer qui va connaître le plein emploi, les concerts des Beatles et la libération sexuelle, suscitant la jalousie de ma génération, à moi qui connaîtra le chômage, le sida et Calogero. Christophe, lui, grandit avec Piaf, Beco, Brassens, se passionne pour les pionniers du rock, même si l'anecdote concernant son nom de scène n'est pas franchement rock. Hein, savez-vous pourquoi, Christophe ? Eh ben, en hommage à la médaille de Saint-Christophe qu'il avait reçue de sa mamie. Mais oui, on a connu plus punk, mais bon. Va pour Christophe, qui apprend la guitare et l'harmonica, et crée donc les Danny Baby et les Hooligans, groupe amateur qui se séparera plus vite que les Beatles, le palmarès en moins. Pas grave, car en 1966, Christophe démarre sa carrière solo en force avec...
Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne.
C'est fou comme se faire larguer peut être un formidable catalyseur pour la création artistique. J'en parlais encore avec Constance l'autre jour, David. C'est dingue. Bref, le succès est phénoménal. 1 million de disques vendus numéro 1 en France, en Israël, en Espagne, au Brésil, en Turquie et même en Belgique, Pulse. Fatalement, toute une génération de fans s'interroge. Qui est cette Aline ? C'est au magazine Naturiste, lui, que Christophe acceptera finalement de révéler l'identité de la dite Aline. C'était, je cite, « une Polonaise pas dégueu qui s'occupait du vestiaire de l'Orphéon Club, qui vivait avec une copine de son âge pas dégueu non plus. Aline était assistante dentaire. » Convertir un râteau en tube, on est nombreux à en avoir rêvé, Christophe l'a fait, et on le sait peu, il n'y a pas qu'Aline la Polonaise à l'avoir snobée. 2 ans avant de crier Aline pour qu'elle revienne, il beuglait Sophie.
Elle s'appelait Sophie, je l'aimais pour la vie, les filles de l'été ne reviennent jamais.
Reviens Sophie, Aline pour qu'elle revienne. Personne ne reprochera à Christophe cette répétition. Par contre, un certain Jackie Moulière voit rouge en attendant Aline. Musicalement, il crie au plagiat, gagne en première instance, mais perd ensuite en appel. Loin de moi l'idée de vouloir remuer le stylo dans la partition, il y a prescription, mais écoutons quand même dos à dos Aline et donc cette chanson de Jackie Moulière, La Romance. David Castello, notre expert mélodique, tranchera. La Romance.
J'avais dessiné
et le vrai.
Sur le sable, je ne veux plus m'en souvenir.
Petite air de ressemblance.
Oui, mais si on commence avec les chansons de ces années-là, elles sont toutes voisines, tous les garçons et les filles de mon âge, c'est très, très souvent des progressions d'accords un peu voisines.
Christophe non coupable.
Christophe non coupable. Il ne peut pas,
effectivement. Petite polémique qui n'affecte pas longtemps Christophe, devenu une star en pleine période yéyé. On le retrouve d'ailleurs en 66 sur la mythique photo de Salut les copains, même si, éternel électron libre, il avouera y être allé à reculons. Christophe est un solitaire en tout cas. Les succès s'enchaînent, le cash coule à flot. Pour Christophe, c'est le moment de commencer une belle collection de voitures de luxe. Ferrari, Lamborghini, Cadillac, Blanacré, Bentley Continental, les bolides, c'est son dada. Accro à la vitesse, il participera et remportera même de nombreuses courses automobiles. Il fera même une fois des tonneaux avec Jean-Louis Trintignant, ce que je trouve assez chic dans un CV de pilote. Le problème, c'est que comme beaucoup de stars de cette génération, ces facétieux boomers, Christophe a du mal à saisir la différence qui existe entre vitesse sur circuit et vitesse sur départemental limitée à 90 km/h. D'où quelques démêlés avec les gendarmes. Une fois, j'ai fait la fête avec Paul Naref, raconte-t-il. Je me suis fait arrêter par un agent de police sur les Champs-Élysées. J'ai un peu forcé le passage. Ça m'a valu 3 ans de prison avec sursis. Il faudra attendre les années 2000 et un enchaînement fatal pour ces points de 3 excès de vitesse, dont l'un à 240 au lieu de 130, pour que Christophe se range des voitures au sens propre, ne conservant dans son garage qu'une seule voiture. Une Porsche 911, décidément, nous avions affaire à un homme de goût à tout niveau. Un goût qui se manifestait d'abord évidemment dans sa musique.
Dandy, un peu maudit, un peu vieilli.
Christophe était un perfectionniste obsessionnel du son qui pouvait, paraît-il, enregistrer sa voix à 4 pattes sous son lavabo, sous prétexte que l'acoustique était exactement celle qu'il souhaitait à ce moment-là. Un travail minutieux effectué toujours de nuit, c'est là qu'il bossait, jusqu'à 8h du matin. Ses compositions aussi font le grand écart. Mais dis donc, Mathieu, ce serait pas un extrait de la BO de Kill Bill 2, ça ? Quel rapport avec Christophe, t'es complètement con ou quoi ? Se disent certainement les plus mélomanes d'entre vous. Eh bien, le lien, mes cocos, c'est que cette musique de Kill Bill est signée Christophe. Et oui, en 70, Sunny Road to Salina, c'est ce qu'on écoute, c'était déjà la BO d'un film de George Lautner que Tarantino avait adoré, il l'a reprise. Christophe peut donc être au sommet de la branchitude, tout comme il peut être super populaire. Oui, fun fact, c'est le même artiste qui a signé la musique de cet autre chef-d'œuvre. Après tout, qui sommes-nous pour juger ? Au niveau des paroles, c'est pas la même chose. Vous avez des envolées des meilleurs paroliers hein, que vous trouvez chez Christophe. Témoin Jean-Michel Jarre, un de ses paroliers, c'est lui qui a écrit « Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux ». Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. C'est magnifique, c'est presque du Rimbaud. Et puis Christophe, c'est aussi parfois des paroles de Bob Decoux, moins rimbaldien dans son approche. Écoutez, nous sommes en 78, le titre c'est « Saute du scooter ». Saute du scooter, remets tes sockets, saute du scooter, surtout touche pas à mes sacoches, une allégorie. Sûrement reste à trouver laquelle. En tout cas, comme dirait Michel Drucker à la fin d'une émission où le prompteur saute et il sait plus quoi dire, chapeau l'artiste. Repose en paix. Formidable Christophe, oiseau de nuit, amateur du grand écart artistique, dont Jean-Michel Jarre disait « Il avait une approche instinctive, un balancement entre l'extrême fragilité et la maîtrise qui faisait son talent. C'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier. Un bel hommage pour celui qui était justement, si vous avez suivi... »
Fils d'une couturière.
Fils d'une couturière, bonne réponse de Stéphane Bern, effectivement, effectivement.
Merci Mathieu. C'était beau, c'était troublant.
Je dirais même que c'était émouvant.
Émouvant,
oui,
exactement.
Je m'auto-félicite.
Ouais. Et tout était vrai en plus.
Oui, là tout était vrai aujourd'hui.
Oui, oui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour en espérant qu'ils arrivent quand même à trouver un peu le sommeil, se dit
oui,
Buisson.
Oui, effectivement, comme ils sont morts, il n'y a plus beaucoup de risques. À tous les médecins vous le diront, la mort est un excellent remède à l'insomnie. Eux, en revanche, sont frais comme des gardons, prêts à répondre à vos questions, Stéphane, oui, dans la lutte finale, qui nous oppose désormais chaque jour en fin d'émission, mais prêts, avant cela, à nous révéler les origines de ce qui fait notre quotidien. Notre quotidien, c'est les abricots pour quelques jours encore, hein, Olivier.
Oui, la saison va durer jusqu'au 15 septembre, à peu près.
Ah oui, on a
encore un petit peu de temps pour en profiter. Ma petite recette de tout à l'heure.
Les Mirabelles, les Reine Claude et les couettes.
Ça, c'est très court. Oui, c'est très court aussi.
C'est encore plus court, Olivier.
Les Mirabelles, c'est vraiment très court.
Et on va se dépêcher surtout d'écouter David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une pratique étonnante, fascinante, le mentalisme. C'est ça?
Tout à fait. Souvent dans ma vie, moi, je me suis passionné pour des choses pendant des périodes courtes, mais de façon extrêmement intense, extrêmement intense. Je me suis passionné pour le baseball, par exemple, j'en ai déjà parlé. Je me suis passionné pendant le thé, pendant 3 mois de ma vie, où je n'ai pensé qu'à ça. Je n'ai fait qu'améliorer mes infusions, tout ça. Et il y a 5 ans, j'ai eu une courte phase de passion pour la magie. Pas pour la pratique de la magie, mais pour l'histoire et la théorie de la magie. J'ai acheté des livres de reproduction d'époque très chers. J'ai regardé des dizaines d'heures de magie sur YouTube. Et surtout, j'ai lu ce livre que je tiens dans la main en ce moment, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jim Stenmeyer, et dont le titre est Hiding the Elephant, How Magicians Invented the Impossible. Faire disparaître l'éléphant, comment les magiciens ont inventé l'impossible. C'est une histoire de l'âge d'or de la magie entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et l'une des choses qui m'a le plus fasciné dans ce livre, c'est l'histoire d'un tour de magie, de mentalisme, qu'on appelait la seconde vue. Le principe de la seconde vue, il est simple. Le magicien a un assistant ou une assistante sur scène qui a les yeux bandés et qui tourne le dos au public. Le magicien, il prend des objets au hasard dans le public et il demande à son assistant « Qu'est-ce que je tiens dans ma main ?» Et à la stupeur de l'assemblée, l'assistant devine non seulement le type d'objet, mais sa matière, sa couleur et même d'autres détails super précis. Le premier à avoir fait ce tour, c'est sans doute un magicien anglais dans les années 1780, mais le premier qui lui a donné ses lettres de noblesse, c'est Robert Houdin, le père de la magie moderne, le modèle de Harry Houdini, dont on a parlé dans cette émission, et qui s'en est inspiré pour trouver son nom de scène. Robert Houdin, il a créé son numéro au milieu du 19e siècle à Paris, en utilisant son fils comme assistant. Alors, je dois le dire, dans cette chronique, je vais faire quelque chose que normalement on ne fait pas.
Vous allez révéler un tour de magie.
Je vais révéler des trucs. Mais la raison pour laquelle je me permets de révéler ces trucs, c'est le même qui fait que l'auteur du livre les a révélés, c'est qu'en fait, ces trucs, ils sont à présent connus de tous les magiciens. Donc, on ne détruit rien, on ne fait que le répéter. Bon, Mathieu, Olivier, Stéphane, à votre avis, quel était le truc? Comment est-ce que le fils de Robert Houdin, qui était pourtant dos au public et qui avait les yeux bandés, pouvait deviner les caractéristiques précises d'un objet pris au hasard qu'il ne pouvait pas voir?
Il n'avait pas les yeux bandés, en fait.
Il avait les yeux bandés entièrement.
Il y avait un code vocal. C'est-à-dire qu'il disait certains mots.
Il y avait un code vocal. La façon dont Robert Houdin posait la question à son fils était codée selon un principe convenu à l'avance entre eux et qu'ils étaient les seuls à connaître. La question, donc, contenait la réponse. Si, par exemple, l'objet tendu par la personne du public, c'était une montre, Robert, il disait « Dis-moi, sais-tu quel objet j'ai dans la main ?» Si, par exemple, c'était un sac à main, la question devenait « Peux-tu deviner l'objet que j'ai dans la main ?» Et ainsi de suite. Et même chose pour les caractéristiques
donc,
suivantes.
Il fallait se souvenir de tout le...
Oui, bien sûr, ils avaient appris le code à l'avance. Et même chose pour les caractéristiques suivantes, la taille, la couleur, la marque, etc. Mais, au bout d'un moment, le public a cessé d'être dupe, hein, c'était un peu des Olivier Pouls, un peu qui connaissaient
des gens très intelligents.
Tout le monde a compris qu'il y avait un code et le tour est un petit peu tombé en désuétude. Jusqu'à ce qu'arrive un magicien anglais génial qui s'appelait Charles Morit. Charles, il a décidé de reprendre le tour de Robert Houdin dans les années 1880. Alors les gens, ils se sont dit sans doute putain, le relou quoi, on est au courant, il y a un code, c'est nul, qu'est-ce qui nous fait chier. Et là Charles, il commence son tour, sauf qu'il dit pratiquement rien. il prend l'objet dans le public, il y a son assistante les yeux bandés sur scène, et il dit en gros juste deux mots, il dit « yes » et « thank you ». Rien d'autre. Et pourtant, son assistante, elle devine à la perfection. C'est un sac à main bleu ciel de marque Kenzo. Je remets un petit peu, c'est un peu anachronique, mais c'est bon. Et le public, il s'arrachait les cheveux. Personne ne comprenait, mais comment c'est possible? Ils se disent rien, il peut pas y avoir de code. Et pourtant, il y avait un truc. À votre avis, une nouvelle fois,
Olivier
quel
Pousse,
était
s'il vous plaît.
Ce truc?
Ah là, ça devient un peu plus
compliqué.
Technique.
Ouais.
Je pense que ça dépasse mes compétences de magicien.
On n'est pas dans l'intonation juste de la voix?
Non.
Non, parce qu'il y a vraiment trop peu de mots.
Je vais vous le dire peut-être.
Ah oui, on a
envie.
Vous le dire.
Eh bien, au lieu de faire un code avec les mots, ils ont fait un code avec la durée du silence entre les mots.
Non.
Mais si, je m'explique. Charles, il prenait par exemple une montre à une personne du public. Ah oui, et là, il disait un mot genre yes. Ce mot, c'était un signal pour que lui et son assistante commencent à compter dans leur tête exactement en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, Charles, il disait encore yes, par exemple. Et donc, l'assistante s'arrêtait de compter dans sa tête et elle savait que c'était 7. Or, 7 dans leur code, ça voulait dire montre. C'est et dingue. Ainsi de suite, un deuxième silence c'est pour génial. La couleur, un troisième pour la marque, etc. Alors aujourd'hui, 150 ans plus tard, il y a des mentalistes qui font des choses encore plus folles, donc on ne connaît pas les trucs, mais il y a une simplicité tellement brillante dans la version de Moritz que ça méritait bien une chronique de 5 minutes.
C'est magnifique, j'ai envie de refaire ça. Stéphane, vous voulez pas qu'on se lance dans la magie? On pourrait faire, à mon avis, un beau duo. À mon avis, ça virerait rapidement au comique parce qu'on se tromperait dans le code.
Oui, c'est ça.
Vous avez un sac violet. Non, c'était un parapluie noir.
Bon, on y est là, vous avez cassé mon rêve. Vous pensez qu'il y a vraiment un truc chez les mentalistes?
Chez ceux-là, il y en avait un.
Mais là, maintenant,
non, quand vous voyez chez par exemple,
il n'y en a pas.
Mais non, il n'y a rien. Mais en tout cas, c'était passionnant comme d'habitude.
Merci. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Sur évidemment YouTube, Dailymotion, tout ce que vous voulez, et surtout sur Europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Les magiciens ont réussi à faire disparaître des éléphants, mais ils n'ont jamais réussi à faire disparaître Olivier Pouls, avec nous, notre expert gastronomie.
Ils n'ont jamais essayé d'ailleurs.
C'est vrai qu'ils n'ont pas essayé. Olivier, aujourd'hui vous nous amenez aux origines de l'abricot. Vous êtes remonté si loin.
Et je vais même vous offrir tout à l'heure une recette, évidemment avec des abricots, puisque nous sommes encore dans la saison de l'abricot, une saison qui commence généralement vers le mois de mai. C'est un des premiers fruits d'été à apparaître, et c'est une saison qui va se terminer là, dans les quelques jours qui viennent, jusqu'à la mi-septembre avec les variétés les plus tardives. Alors l'origine de l'abricot, il y a évidemment toujours un arbre qui pousse à l'état naturel, à l'état sauvage, le premier abricotier. Ces premiers abricotiers, ils nous proviennent de Chine.
Ah
et
bon
c'est d'ailleurs, ce sont d'ailleurs les Chinois qui ont été les premiers à cultiver et à domestiquer l'abricotier il y a environ 5000 ans.
Lui aussi se domestique, l'abricotier.
Mais oui, parce que,
un lasso.
Non, mais en fait, on réalise des croisements. Voilà, de manière à développer des variétés qui sont d'ailleurs meilleures en goût, mais qui aussi s'adaptent mieux à certains climats et qui sont certaines plus tardives, d'autres un petit peu plus précoces, etc. Et donc, comme beaucoup de produits, il va ensuite suivre sa route vers l'ouest, via le Moyen puis le Proche-Orient. Et ce sont les Romains qui l'amènent en Europe, il y a environ 2000 ans, et on le trouve alors à ce moment-là en Italie, évidemment, les Romains l'ont emmené chez eux, mais ils l'ont aussi apporté jusqu'en Espagne. C'est assez tard que l'abricot arrive finalement en France. On est autour du 15e siècle. Les premiers abricotiers sont plantés sur les rebords de la Méditerranée. Et notamment grâce aux noyaux d'abricots que des soldats ramènent de campagne. Ils ramènent des noyaux d'abricots dans leur poche et puis ils les plantent et hop, comme par magie, ça marche. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à le faire si vous voulez avoir des abricotiers.
Alors attendez, ça, je crois que ça ne marche pas. J'ai recraché tellement de noyaux de cerises, de noyaux de
oui, mais sur votre balcon, ça peut pas marcher.
Non, dans la terre et
oui, c'est
ça
vrai
n'a
que
jamais,
c'est...
j'ai jamais rien vu pousser. Pardon.
Alors,
mais...
ce qu'il faut faire, c'est évidemment pas tout de suite l'enterrer. Il faut d'abord le faire germer. Vous prenez des noyaux de cerise, vous les mettez, vous savez, dans
un
petit coton avec un petit peu d'eau, et puis vous faites germer. Puis quand
et ça pourquoi
germe
ça marche dans la terre à l'origine, le noyau est dans la terre.
J'imagine que sur les milliers de noyaux d'abricots, il y en a beaucoup qui ne sont jamais devenus des arbres, mais il a suffi que quelques-uns poussent.
Je peux vous dire, j'en ai jeté
suffisant.
Des noyaux d'olivin.
Toujours avec le même espoir, hein. c'est ça qui est touchant chez vous.
Bon, bah écoutez, on vous offrira des petits arbres, des petits bonsaïs.
Merci.
Voilà, et puis la Quintini, le fameux jardinier de Louis XIV, elle a planté des abricotiers à Versailles. La culture s'est ensuite étendue. Elle se développe vraiment chez nous à partir du XVIIIe siècle. Et puis là, ben voilà, on va créer de nombreuses variétés. Il y en a aujourd'hui quelques dizaines.
Il y a combien de variétés, justement?
On ne sait pas exactement, mais parmi les variétés les plus connues, il y a le Bergeron, Aragon, l'Oranger de Provence, la Gâterie, le Royal ou le Rouge du Roussillon. Mmh. Et dans le Roussillon, il y a d'ailleurs une appellation d'origine protégée pour ces abricots.
Vous nommez 4 Gâteries, s'il vous plaît.
Alors, oui. il y en a de très bonnes dans la Drôme provençale.
Aussi, non, oui, bien sûr.
Parce que là, c'est vraiment, avec le livre de nuances, vous voyez, juste à côté, vous avez tous les abricotiers.
Et alors, est-ce que vous savez comment on choisit un bon abricot, justement,
non.
au marché?
Non, ça, non, c'est ça.
Il faut qu'il soit plutôt brillant et lisse, et non pas trop duveteux. Ah. Il faut qu'il soit un petit peu mou, mais pas trop. Et surtout, il ne faut pas se fier à sa couleur, parce que vous avez des abricots qui sont tachetés naturellement. Donc, on a l'impression qu'en fait, ils sont un peu gâtés parce qu'ils ont des taches. Mais en fait, ces taches, c'est plutôt bon signe. Ça appartient à leur variété. Donc, voilà, c'est une question de texture. Puis sont les abricots, comme beaucoup de fruits, continuent à mûrir un petit peu quand ils ont été ramassés. Et si vous le voulez, si on a encore un petit peu de temps, oui, je vous offre une petite recette originale. Non pas une tarte à l'abricot, mais une salade
avec du thym,
dans laquelle on va mélanger des haricots verts, des abricots, des amandes et un peu de burrata. Oh. Et c'est une salade vraiment estivale, bon, voilà, pour attaquer la rentrée tout en gardant la ligne. Donc les haricots
combien
verts.
Combien de calories la burrata?
Non, Stéphane, arrêtez de travailler.
Et pourquoi la burrata a supplanté la mozzarella partout?
Oui, on
la
se demande alors que la mozzarella est mais plus prestigieuse
et plus qualitative que la burrata.
C'est un truc de bobo.
C'est un truc de bobo, c'est un sous-produit de la mozzarella. Et figurez-vous que les Italiens en mangent très peu. Donc c'est vraiment un truc.
Et puis, la burrata ne se tient pas. Oui. Elle est très impolie.
C'est de la
alors
crème,
que la mozzarella.
Et maintenant, il y a bien la stracciatella.
C'est encore plus bobo.
Non, mais la burrata, c'est de la crème, en fait, emballée dans de la mozzarella. C'est un produit, mais c'est assez régressif, c'est assez jouissif comme texture.
La burrata s'effondre.
Donc voilà, vos haricots verts à peine cuits, encore al dente. Un petit peu d'huile d'olive, quelques amandes fraîches, et puis des tout petits morceaux d'abricots. Et le mélange avec le sucré de l'abricot, le côté végétal et croquant du haricot vert marche très très bien. Tout ça arbitré par une burrata un peu crémeuse et coulante par-dessus.
Arbitré par une burrata, ça c'est... Je vois la burrata qui distribue des cartons jaunes, des cartons rouges, qui décide.
Entre l'abricot,
vous savez vraiment, une vision romanesque de la cuisine. C'est merveilleux, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Amis, conviez vos neurones, bandez vos muscles, l'heure de la lutte finale a sonné.
Je rappelle que la lutte finale, c'est l'occasion de jauger et de juger votre culture historique. Vous êtes là dans cette émission, tous les trois. Et il n'y a pas que moi, c'est un peu the revenge, si vous voulez. Parce qu'après mes humiliations à répétition, c'est la lutte finale. Alors, une question pour chacun d'entre vous. Olivier, cette question, vous allez forcément bien répondre. Parce que on va parler de la dinde. Vous connaissez la dinde, hein, Olivier? C'est un symbole de pouvoir et de prestige chez les Incas. Vrai ou faux?
C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, la dinde vient d'Amérique du Sud.
Oh, là, il est nul. Il connaît rien en cuisine.
Alors, vous confondez les Incas et les Mayas.
Grave erreur. Mais comment les Mayas
vivent au Guatemala et au Chiapas? Les Incas viennent d'Équateur et du Chili, et les Aztèques viennent du cœur du Mexique.
Bien sûr,
on va les confondre, vous voyez. C'est on peut pas mélanger.
C'est navrant de mélanger les civilisations.
C'est comme si vous mélangez les Normands et les Bourguignons.
Exactement. Voilà. C'est très insultant pour eux. Heureusement, leur ambassadeur, en ce moment, a autre chose à faire que de. David Cassius-Lopez. Theodore Roosevelt, il a aussi été champion de lutte. C'est vrai ou c'est faux?
Champion de lutte, ouais, un type viril comme ça, à la fin du 19e siècle, où c'était important l'éducation physique, je dirais que oui, il aurait pu être lutteur.
Non, c'est la débandade
en fait,
aujourd'hui.
Non, c'était pas lutteur, c'était un autre sport.
C'est pas lui qui était champion de lutte. C'est Abraham Lincoln.
Dont on a parlé aujourd'hui.
Il faisait beaucoup de sport. Mathieu, c'est à vous.
Non, mais je pense que là, ils ont tous les deux perdu. On peut déjà me décréter vainqueur.
Parce que si vous perdez, je fais des partages.
J'aurais tenté. Bon, allons-y.
Une question sur l'Égypte ancienne. Je sais que vous êtes passionné l'Égypte ancienne. Pendant la fête de Nîmes, les pharaons devaient...
La feria de Nîmes.
Oui, non.
C'est ça que vous voulez dire.
Ça s'écrit
soyez
pas pareil.
Précis, soyez
ça s'écrit
précis,
pas pareil. Vrai. La fête de Nîmes, les pharaons devaient uriner dans le Nil pour que le fleuve sacré donne des récoltes abondantes. Vrai ou faux?
Je trouve l'idée magnifique. Je vois bien. Je vois bien Ramsès II.
Soyons précis.
C'est vrai, Stéphane. Les phares. Et si vous l'ignorez, si vous répondez non, c'est juste que vous n'êtes pas informé. C'est ce qui se passait dans l'Égypte antique. Ça, je peux vous l'assurer.
Honnêtement.
Vous êtes mal renseigné, Stéphane.
Non, vous auriez pu trouver. Il ne pissait pas, si je puis me permettre.
Mais c'est pas
mais il devait mettre du sperme.
Mais non!
Mais
non,
bien sûr! Puisqu'on devait féconder le Nil, qui allait ensuite alimenter toutes les terres.
Et ils et étaient fécondés. Aidés?
Mais ils étaient aidés seuls. Par quoi? Il n'y avait pas de magasin.
Ça se passait en public.
Ah bah, encore mieux! Encore plus simple!
Bon, c'est pas évident à faire, évidemment.
J'imagine quand, la pression.
Sans doute, quand vous n'aviez pas d'autre image que le Nil.
Le Nil. Et quelques milliers de personnes qui vous regardent.
Non, mais oui. Le Nil, ouais, ça peut être.
Alors, vous avez tous les trois faux. Il faut donc la question qui les partage. Alors, qui va remporter la lutte finale? On va rester en Amérique, si vous le voulez bien. Okay. En octobre 1929, aux États-Unis, c'est le krach boursier. Pendant les deux derniers mois de l'année à Wall Street, combien y a-t-il eu de suicides?
À Wall Street?
Alors, à Wall Street, oui. Il y a eu le krach boursier, les gens ont perdu des fortunes.
Ouais.
Certaines personnes se sont suicidées. Combien y a-t-il exactement de suicides? Alors, la personne qui est le plus près...
Pas de suicides dans tous les États-Unis parce que
le krach boursier... Non, à Wall Street.
Rien qu'à Wall Street, donc Wall Street. Des traders, moi, dirais, ou des banquiers...
Des gens qui étaient à Wall Street.
À Wall Street 20. Ou à Manhattan?
Non, à Wall Street.
Moi, j'irais 20.
Oh, moi, je dirais 200.
220
à Wall Street, parmi les traders de l'époque. Je dirais 152. Mmh.
C'est encore David qui gagne.
Mais David, il a dit quoi?
J'ai dit 20. Il a dit 20, il y en a eu 2.
C'était une non question
mais,
piège.
Non, mais 200 bien, traders en 1900. Je pense qu'il n'y avait même pas 200 traders.
Ils se sont tous fait acquérir. C'est notre vision
c'est
de l'Amérique.
Bien, c'est bien de rire. Mais hein? Pardonnez-moi, mais même 2, c'est trop.
Oh, c'est beau. En tout cas, bravo. Historiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. Mais la formidable nouvelle, Stéphane, c'est qu'on se retrouve demain. Vous allez réussir à trouver le sommeil après toutes ces histoires d'insomnie?
Ah oui, justement, je vais y repenser. Ça va me faire dormir.
L'occasion de rappeler à nos auditeurs sujet à l'insomnie, l'alternative au somnifère sous forme de médicaments, le somnifère sous forme télévisée. Ça s'appelle Secret d'Histoire, c'est sur France 3. Et d'anecdotes sur le vestibule du Duc de Berry en révélation sur la chaise percée de Madame de Maintenon, c'est l'assurance de sombrer très vite dans un sommeil profond et tout à fait réparateur.
Oui, et demain, merci Mathieu pour cette promo inhabituelle. Demain, Mathieu, je vous donnerai une technique pour sombrer très vite à Pôle emploi.
Ah, ça pourrait être intéressant. À demain, Stéphane. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.